La mairie vous répond. Dans cette émission, on vous parle de travaux de la rue Clémenceau, des travaux du front de port de Port-Joinville, de la nouvelle mairie de l'Île-Dieu et du futur équipement public au Petit Chiron, la future médiathèque. Bruno Nourry, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le maire de l'Île-Dieu.
Oui.
Sylvie Grogue, bonjour.
Bonjour, Roland.
Vous êtes première adjointe en charge de la culture à la mairie de l'Île-Dieu.
Parfaitement.
On va commencer avec la rue Clémenceau. Où en sont les travaux en ce début mars 2019?
On arrive bientôt à la fin, hein, et reste encore quelques petits détails et puis
quel détail
quelques petits détails, c'est notamment de faire le revêtement des trottoirs et puis surtout le revêtement de la voirie. Donc ça interviendra début avril. L'objectif, en fait, c'est cette route qui est pas très large. Voit passer l'ensemble des trafics vers la zone artisanale.
Elle est beaucoup empruntée.
Oui, beaucoup empruntée. Il y a aussi les enfants qui vont à l'école, etc. Et à l'époque, quand elle avait été faite, du fait de son étroitesse, c'était un espace partagé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de trottoir. Et aujourd'hui, avec le trafic actuel, ça pose quand même des problèmes de sécurité. Donc l'idée...
C'était une route dangereuse.
Oui, tout à fait, oui. Et donc l'idée, c'est de faire une voie dans les deux sens, hein, qui fasse la largeur pour accueillir notamment tous les camions vers la zone artisanale.
Camions, bus, voitures,
ouais,
vont passer.
C'est ça, ouais. C'est une des voies les plus passantes de l'île, hein. Et donc de faire aussi un trottoir qui permette de mettre les piétons en sécurité. Alors je dis un parce qu'il y en aura pas deux, parce qu'on n'a pas la largeur de voie. Ça nécessitait en amont beaucoup de tractations avec les riverains pour parfois aller prendre jusqu'à un mètre dans certaines propriétés pour pouvoir mettre cette rue en sécurité.
Ils ont dit tous oui, ces habitants?
Oui, forcément. Je ne dis pas que les discussions sont simples, mais je voudrais quand même remercier la compréhension des uns et des autres. Bon, c'est aussi la vie du quartier, la sécurité des gens du quartier qui, quand les uns et les autres vont à pied. Donc tout le monde a bien compris l'enjeu. Voilà, je voudrais remercier tous ces gens qui ont permis qu'on puisse le faire, parce que ça n'était pas qu'une négociation, ça a été beaucoup de négociations.
Beaucoup de négociations. Pour faire simple, le trottoir sera plus large.
Le trottoir sera un peu au-delà de la norme. La norme, je crois que c'est 1m35, il fera 1m50 de large.
Cette route sera aménagée aussi pour les personnes à mobilité réduite, non?
Le trottoir, oui.
Oui, le trottoir, oui.
Le trottoir, oui, bien sûr. Alors après, c'est posé plein de questions. Les arbres devant le cimetière, bon, on a choisi de les maintenir. Donc il fallait bien regarder comment s'opéraient les accès au cimetière. Il y a aussi la rue de la Grouille, le bas de la rue de la Grouille, où pour gagner sur l'espace trottoir, en fait on va faire un mur de soutènement de cette voie. Donc on a été grappiller les moindres centimètres.
Est-ce qu'il y aura des dodanes pour casser un petit peu la vitesse?
Non. Le dodane est certes joue le rôle de ralentisseur. Il y a d'autres dispositifs qui peuvent jouer le rôle de ralentisseur. Et surtout, là, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est énormément de camions. En fait, des camions qui passent sur un dodane avec des chargements, ça devient hyper bruyant pour les voisins.
Pour les riverains,
donc,
oui.
On a choisi d'autres systèmes.
Alors, quel système?
D'abord, on avait fait un rond-point sur la route des Sicardières, hein. C'est aussi un piège à vitesse. Dès qu'on va être dans les virages après la gendarmerie et aller sur le cimetière, déjà la configuration de la voie fait que de toute façon il faudra ralentir. Devant le cimetière, il y aura un petit décroché pour contourner les deux platanes. Donc là aussi, c'est un piège à vitesse. Reste la ligne droite entre le rond-point de la route des Sicardières et la gendarmerie, où les gens peuvent reprendre de la vitesse. Et donc, on a choisi de faire un îlot central, un peu comme celui qui a été fait au stop de Kerpissotte. Donc ça aussi, ça joue le rôle de ralentisseur.
La route va être limitée à 30 km/h, non?
Pas partout.
Pas partout.
Non, pas partout, parce que Le 30 km/h, il est efficace s'il est de courte distance. Dès que on fait du 30 km/h sur un kilomètre, il n'est pas respecté. On le voit bien sur la rue Pierre-Henri, c'est typique. Voilà, et donc il y aura des zones de ralentissement à 30 à certains endroits, mais pas partout.
La vitesse sera limitée donc à 50 km/h.
50 et 30 par endroit.
On l'a bien compris.
Ouais.
Fin des travaux prévus pour quand ?
C'est à peu près à la mi-avril. Ouais.
Le coût de ces aménagements et de ces travaux ?
Ça a l'air de rien, mais une voie comme la rue Clémenceau, où ça nécessitait énormément de reprises, la création de bordures de trottoirs, on n'est pas sur une voirie classique, et aussi sur une voirie lourde. Et donc avec un certain nombre d'aménagements, et donc on est sur un coût à un peu plus de 700 000 euros TTC.
700 000 euros pour la commune de Île-Dieu, c'est un coût. Comment ça a été financé ?
La voirie, on n'est pas subventionné. Donc là, c'est des coûts...
Propre à la mairie de l'Île-Dieu.
Oui, tout à fait. Et ça fait partie des plans d'investissement que l'on fait. Donc après, on ne peut pas tout faire. Il y a des priorisations. Et puis, voilà, on l'inscrit dans une continuité, dans le temps de positionner les différents investissements pour toujours avoir un taux d'endettement qui soit acceptable.
Sylvie Groc, un avis sur cette route ? On l'a compris, plus sécurisante.
Plus sécurisante, mais je voudrais surtout insister sur le fait qu'on a le devoir de faciliter l'accessibilité handicapée. Et là, les travaux vont vraiment proposer quelque chose de très de correct pour les gens, les handicapés ou les mamans qui ont des poussettes.
Des poussettes.
Parce que c'était pas facile avant.
Cette route donc sera beaucoup plus sécurisante et sécurisée.
Oui.
Bruno,
oui, bien sûr.
C'était vraiment le but premier.
Bon, on avait déjà fait la tranche sud de la route des Sicardières jusqu'à Carpissotte. Donc là, avec l'aménagement un peu plus léger, parce que ce ne sont pas vraiment des bordures de trottoirs, etc. Mais là aussi, il a fallu discuter avec les riverains pour avoir la largeur de voie suffisante pour accepter le trafic qu'on y fait. Donc ça, c'était une première tranche. Et là, c'est la deuxième tranche. Comme la voie était pas large, ça a été beaucoup plus complexe.
Ces aménagements étaient-ils obligatoires, car il y avait peu tout de même d'accidents ?
Ouais, on va pas attendre l'accident pour faire des choses. Maintenant,
vous êtes plutôt sécuritaire, on l'avait compris.
Non, mais on peut laisser comme ça maintenant. Je disais, il y a un fort trafic, il y a les enfants à l'école, etc. Enfin, c'est aussi notre responsabilité de mettre en sécurité les endroits dangereux. Donc, certes, il n'y a pas eu d'accident grave, mais il y a eu des
parpaings qui sont tombés sur la route, par exemple.
Par exemple, des conteneurs qui restent accrochés aux branches.
Qui tombent sur des deux chevaux.
Non, mais c'est vrai que ça aurait pu être très dangereux.
Non, mais
on plaisante, mais...
Je crois que c'était il y a 3 ans, il y a aussi une gamine qui allait à l'école en vélo qui s'était fait renverser par un camion. Donc on sait bien, enfin, tout le monde voit bien que cette voie était dangereuse, sans trottoir. J'ai annoncé un coup, mais c'est sans les travaux préparatoires, parce qu'il y a quelques années, on avait enfoui les lignes qui restaient entre la gendarmerie et puis le cimetière. Il y a eu des réparations sur le réseau d'assainissement qui ne sont pas terminées, du reste, parce qu'on va pouvoir le faire en chemisage sous voie sans ouvrir la voie. Mais ouais, ça nécessite souvent des gros travaux de préparation qui prennent souvent plusieurs années.
Autre gros travaux actuellement sur Île-Dieu, le front de Port-Joinville. Le front de Port-Joinville,
oui.
Où en sont ces travaux ?
Ces travaux donc, ont commencé début janvier et sont prévus d'être terminés aux alentours de la mi-avril. Pour le moment, on est dans le...
Comme la rue Clémenceau, donc ?
Oui, comme la rue Clémenceau, oui, oui. Un tout petit peu après, mais ça va être assez concomitant. Pour le moment, il n'y a pas de retard, donc j'ai envie de dire tout va bien.
Quels sont ces aménagements ? et ces futurs changements?
Alors, il y a plusieurs choses. On partait aussi de plusieurs constats. Tout d'abord, la place donnée à la voiture, là, on va dire globalement devant la place la pilée, hein, c'était du stationnement en épi, puis la voie, puis du stationnement en épi, et puis une autre voie, c'était très large et assez peu d'espace piéton. Et du coup, on avait une espèce de cassure entre le port devant les cafés et puis le port devant la place Lapillée, cassure au niveau du café du centre, et qui faisait qu'on avait un peu deux ports qui cohabitaient avec une liaison qui n'était pas si évidente que ça. Donc, en travaillant dessus, on est parti de postulats. Alors, du reste, on s'était déjà inspiré du travail qui avait été fait il y a une vingtaine d'années sur le projet de Front de Port. Remis un peu au goût du jour, hein, les réflexions ne sont plus tout à fait les mêmes 20 ans après, mais en partant d'un principe où il faut que le port soit traversant dans les deux sens, donc qu'il soit circulable dans les deux sens, donc il faut une voie qui est liée du stationnement et puis redonner des espaces
aux piétons.
C'était ça l'objectif. C'est la voie du parking qui a double sens, mais en fait, cette voie du parking, on a repris le tracé parce que c'était plus simple en termes de réseau, etc. Mais cette voie du parking est de la même largeur que devant la voie devant les cafés. Donc, c'est une voie qui est plutôt large, hein, parce qu'elle fait, un peu plus de 7 mètres. Donc, c'est une voie plutôt assez large. Donc là, c'est... Il n'y a pas de souci. L'important, c'est qu'on puisse traverser le port dans les deux sens, et c'est le cas.
Pour vous, il n'y aura pas de problème de stationnement ni pour traverser le port. Alors, période estivale, bien sûr. Ouais, pour moi, c'est beaucoup moins drôle.
Je vois que tu veux en dire. Il y a plusieurs choses. Alors, d'une part, le stationnement, à partir du moment où on a la voie dans les deux sens, on ne peut plus vraiment faire de stationnement en épi, disons que c'est moins approprié, donc on fait du stationnement longitudinal. Alors ça a permis, par exemple, sur le bord à quai, de gagner 2,50 m, hein. Donc c'est pas rien sur un bord de quai qui était pas très large.
Il va falloir apprendre à faire les créneaux.
Oui, on a fait les places de stationnement un peu plus longues pour faciliter les choses, mais bon... On en fait devant le navigateur, il y a des créneaux aussi. C'est normalement, quand on a son permis, on sait faire des créneaux.
On est bien d'accord.
Ouais, mais on a fait les places un peu plus longues malgré tout. Donc on a perdu un peu, en ce faisant, on a perdu un peu de place de parking. Pas la moitié, parce que on va stationner plus loin, presque jusque devant le café du centre. Donc en fait, on a perdu à peu près un tiers des places de parking. Maintenant, l'important, c'est pas tant le nombre de places de parking, c'est la façon dont on les gère. Du reste, on le voit bien, quand la mer est basse, la cale est pleine de voitures. Quand la mer est haute, il y a pas de voitures.
Ce qui est logique, d'ailleurs.
Et pourtant, à marée basse, on trouve pas forcément plus de place sur le parking. Donc, c'est pas le...
Ce que vous nous dites, c'est que les voitures tournent pas assez sur ce parking.
C'est ça. Donc, préalablement, on avait un horodateur. Or, depuis le 1er janvier 2018, le législateur a remplacé le système d'horodatage avec une amende, hein, parce que et c'était un peu dur, vous dépassiez de 5 minutes et boum, vous vous retrouviez avec une amende. Donc le législateur a remplacé ça par un système de post-facturation. Donc si on veut mettre un système d'horodatage en place, alors vous devez le voir en ville, hein, il y en a à La Roche, il y en a à Nantes, vous avez une borne, vous allez renseigner votre numéro d'immatriculation, votre numéro de carte bleue, etc. Nous, on n'a pas voulu de ça, on voulait un système assez simple, assez ludique, et puis pas forcément d'aller pister les numéros de plaques d'immatriculation, c'est pas l'objet. L'objet, c'est que le parking y tourne. Donc, il existe des bornes de stationnement, c'est un plot. En fait, quand vous allez vous garer, la borne va détecter que vous êtes là et va vous dire...
Qu'il y a une voiture sur la place.
C'est ça. Et elle va vous dire le temps que vous avez le droit de vous garer. Alors, on pourra le moduler en fonction des saisons, en fonction des heures de la journée, en fonction des jours de la semaine, en fonction du taux de rotation du parking, parce que là, on aura des vraies stats. Mais, par exemple, si c'est dit une demi-heure de stationnement, ça va décompter jusqu'à zéro, hein, ça va vous laisser à demi-heure. À zéro, ça va décompter à l'inverse et ça va envoyer un petit message à la police, c'est ça.
Pas un texto à la personne, un texto directement à la police.
Ben oui, ben on peut verbaliser. Pas la personne. Mais les personnes n'ont pas besoin d'aller à une borne, etc., ou d'avoir un équipement sur le véhicule. En fait, c'est la borne qui détecte le véhicule. Mm-hmm. Après, bon, la police, ça va pas être là à chaque dépassement, mais ça permet de voir si nos durées sont compatibles avec l'usage qui en est fait, si le parking tourne bien, etc. Vous savez, si on avait fait...
Ces bornes vont être vandalisées, non? Est-ce que vous avez pensé à ça?
Bah, si elles sont vandalisées, si on vandalise tout, voilà.
C'est une question. Est-ce que vous y avez pensé?
Non, mais le rodateur n'était pas forcément vandalisé, donc je vois pas pourquoi les bornes seraient davantage. Maintenant, si l'année dernière, pour éviter de faire le rodatage pour les raisons que j'ai expliquées, on a fait une zone bleue qui était à une heure. Plus ou moins respecté. Si là, j'en sais rien, moi, une demi-heure dans les périodes un peu dures ou un peu moins ou un peu plus, il peut y avoir même certaines zones dans les stationnements qui pourraient être carrément de l'arrêt minute. Ça, on décidera en concertant les commerçants parce que, voilà, il faut qu'on le fasse ensemble. Mais si on était resté le 10 août toute la journée à compter le nombre de voitures qu'on réussit effectivement à se garer sur le parking et qu'on refait la même expérience cette année, je vous donne en mille, le rapport sera du simple au double. En fait, avec beaucoup moins de place, on va réussir à beaucoup mieux se garer. Maintenant, c'est vrai que quand on va se garer plus longtemps, parce qu'on veut rester une heure, deux heures sur le port, il y a le parking du Quai Canada, puisqu'il n'y aura plus le marché. Il y a aussi le parking de la Chapelle, en le reformatant, on a gagné 50 places. Et là, où il n'y a pas de durée limitée, ce qui permet aux gens qui vont rester un peu plus longtemps de déambuler sur le port.
Par contre, il faudra marcher à pied.
Ouais, on parle de 100 mètres, hein. On parle de 100 mètres.
Des fois, ça va plus vite de marcher à pied qu'à de rouler en voiture.
Ou prendre son vélo.
Mais les gens trouveront plus facilement à se garer, encore une fois, si c'est pour aller chercher leur baguette de pain ou faire une course rapide, qu'aujourd'hui, quoi.
Pourquoi ne pas avoir présenté et consulté la population par rapport à ce projet?
Mais nous,
c'est une question d'auditeur.
Oui, on peut consulter sur... Surtout, il y a un moment donné, il faut aussi être dans l'action et puis de faire les choses. Sinon, non, mais je suis pas contre la concertation, bien au contraire. Du reste, on avait consulté un panel de gens, de commerçants, d'usagers du port, permettait d'esquisser, voilà, la solution la plus acceptable. Encore une fois, on part de postulat, le port traversant dans les deux sens, etc. etc.
Et de l'autre côté, les commerces.
Et d'autre côté, les commerces. Et je crois qu'on va ramener du dynamisme. Ah oui, tout à l'heure, il y avait une question, j'ai pas répondu, sur la circulation avec les arrêts.
J'allais y revenir.
Ouais. Ah oui, t'avais pas oublié.
Ah mais, non.
Aujourd'hui, comment ça se passe, l'arrivée de la Vendéenne?
C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui se posent là-dessus.
Oui, mais après, quand on vit les choses d'une certaine manière, on a du mal à voir que les choses pourraient être différentes en aménageant différemment. Ça a été le cas du rond-point à la place des feux, hein. Tout le monde, enfin, il y a beaucoup de gens au départ qui avaient crié au scandale, mais on se souvient, les arrivées de bateaux avec le feu, c'était quand même rock'n'roll, hein.
Et, mais là aussi, ça va être rock'n'roll, non?
Non, pas du tout, parce que...
Expliquez-nous.
Ouais, je vais expliquer. Aujourd'hui, la voie est assez large. Et en fait, on a positionné la place de taxi sur la voie.
Et, mais il n'y a pas que les taxis qui s'arrêtent.
Laisse-moi expliquer. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand il y a l'arrivée de la Vendéenne, ben, tout d'un coup, hop, il y a un véhicule qui va se garer derrière le taxi, puis un deuxième, puis un troisième. Et après, quand il n'y a plus de place... Mais en fait, la place de taxi légitime l'idée qu'on peut se garer en double file. Et c'est bien que quand il n'y a plus de place, les voitures vont se garer de l'autre côté de la voie, pareil en double file, ce qui reste qu'un petit couloir au milieu pour pouvoir circuler. Donc ce qui ralentit énormément le flux. Mais en plus, les gens qui débarquent de la Vendéenne débarquent sur le quai, se poussent un peu, se finissent par se mélanger avec les voitures, et bref, finissent sur la voie. Et donc là, c'est carrément bloqué, c'est le bazar, et ça circule plus. Donc là, avec l'aménagement, en fait, tout le long des stationnements, il va y avoir un garde-corps, comme le garde-corps devant la mairie, pour empêcher que les gens qui débarquent se retrouvent sur la voie. Voilà, ils débarquent, ils s'étalent le long du quai, ils s'arrêtent, ils disent bonjour aux gens qui viennent les chercher, ils discutent deux minutes, etc. Alors aujourd'hui, ça c'est sur la voie, demain ce sera sur le quai. Et puis, à un moment donné, quand ils décident de partir, donc d'être en mouvement, ils vont prendre les deux traversées de voie, une devant la mairie, une devant chez NK. Et en fait, quand ils traverseront la voie, ils seront en mouvement. Donc ce sera beaucoup moins bloquant qu'aujourd'hui. Du reste, aujourd'hui, 80% du flux des gens qui débarquent de la Vendéenne, le bazar, c'est sur la voie du parking. Mais finalement, la plupart y traversent à 80% et se retrouvent devant la place Lapillée. Et pourtant, sur cette voie, il n'y a pas de problème. Pourquoi ? Parce que les gens sont en mouvement. Et donc, vous verrez qu'on aura beaucoup moins de problèmes de circulation avec cet aménagement.
Ce que vous nous dites, c'est que les voitures ne pourront plus s'arrêter.
Ben pas en double file, non.
Non, voilà.
Ouais, pas en double file. On imagine mal, par exemple, quelqu'un qui s'arrête devant.
Mais je pense qu'il y en a qui vont tenter l'expérience, non?
Ben ils vont bloquer, ça va klaxonner derrière. Donc non, ça c'est juste pas possible, ça.
C'est pas possible, mais ça va se faire, non?
Non, ben non. Pourquoi non ça se ferait?
Je sais pas, c'est une question.
Tu t'arrêtes toi devant les cafés? Non, personne s'arrête. Enfin, non. C'est non. Il y a Les places de taxi sont parmi les stationnements, etc. Donc, il y a juste la place pour le flux de voitures dans les deux sens. Donc, il n'y a pas la place pour s'arrêter, sauf à arrêter complètement la circulation. Donc, c'est comme si quelqu'un s'arrêtait au plein milieu de la danse sur n'importe quelle voie. Après, il n'y a plus rien qui fonctionne. Non, c'est pas possible.
Pour vous, il n'y aura pas de blocage.
Non, il n'y aura pas de blocage, c'est certain, ouais.
Par contre, les gens qui vont chercher les personnes, par exemple, à la compagnie Vendéenne, ils seront obligés de faire demi-tour à la place de la Norvège. Ça va faire le petit train, non?
Maintenant, sur est-ce qu'il faut faire de l'arrêt minute à l'arrivée de la Vendéenne? Parce qu'on peut.
C'est une bonne idée, non?
Non, mais avec les bornes de stationnement, on peut le régler, avoir quelques places à des durées plus limitées. Ça on verra quand même à l'usage. Maintenant. À la gare maritime, il n'y a pas plus de place pour se garer, etc. Il faut, en débarquant du bateau, on peut aussi marcher un peu. On marche à Fromentine, on peut aussi marcher à l'Île-Dieu. Après, effectivement, il n'y a plus le demi-tour devant
le café du centre.
Devant le café du centre, quand on a une voiture, faire 100 mètres de plus pour faire un demi-tour, c'est quand même pas la mer à boire.
Donc pour vous, il n'y aura pas de blocage. Ça va pas bloquer tout le port.
Non, absolument pas. Non. Non, parce qu'on empêche les gens qui débarquent d'être sur la voie. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui débarquent finissent sur la voie, se disent bonjour sur la voie, et ça avance plus, ça bloque. Donc là, aujourd'hui, ils vont être confinés sur le quai, et quand ils seront sur les traversées, les passages de traversées, en fait, ils seront en marche, quoi. Donc ça va être beaucoup moins bloquant qu'aujourd'hui.
Sylvie Grock, un avis sur cet aménagement du front de port?
Un avis, on verra comment ça fonctionne. Je pense qu'on pourra, si vraiment il y avait des problèmes, on pourra corriger certaines choses. Et puis, il faut toujours laisser vivre un projet avant de le critiquer. Voilà, on va voir comment ça se passe cet été. Et puis, ça nous donnera déjà une bonne idée.
Une bonne aperçu.
Quand l'aménagement a été fait, je crois que c'était à la fin des années 70, devant les cafés, là... à l'époque, j'imagine qu'il y a eu des levées de boucliers parce que il n'y avait pas de voie. Tout le monde circulait un peu comme on voulait. On se garait au petit bonheur la chance. Il y avait du stationnement aussi. Il a été supprimé. On a quand même tous survécu et ça reviendrait à personne à l'idée de faire différemment. Et du reste, cette partie du port était plutôt, plutôt réussie. Voilà.
Pour la fête des fleurs, c'était une question aussi de l'auditeur, comment que ça va se passer?
Ben, la fête des fleurs, on parle du retour pour faire le tour du
et
parking.
Le soir, oui.
Ben, ça va être beaucoup plus compliqué de faire,
on est bien
faire
d'accord.
Le tour du parking. Non, mais il faudra faire différemment. Le tour sur le port, il est aussi assez récent. À une époque, les chars finissaient à la citadelle. Hein. Donc là, les organisateurs trouveront la
terre.
Ouais, ce qui bon, les gens ont beaucoup marché en fin de soirée, donc aller faire le tour par le casino, redescendre par la gare, c'est peut-être un peu compliqué, mais bon, c'est peut-être, ce sera peut-être ça la solution. Ça enlèvera rien à la fête, bien au contraire.
Le coût de ces aménagements du front de port?
Alors le port, c'est un peu moins $1,3 million hors taxe. Bon, il y a c'est en réincluant tout, hein, parce qu'on avait aussi encore de l'enfouissement de réseau à réaliser, notamment sur la place Lapillée. Toutes les lignes électriques n'étaient pas enfouies. Et donc en incluant aussi le reformatage de la place Lapillée.
Les gens aussi se retrouvent sur Facebook et voient le mur de la place Lapillée se détruire. Il y a eu beaucoup de retours là-dessus sur les réseaux sociaux.
Ouais. Alors la place Lapillée était prévue dans le projet, le plan est affiché sur le port, donc il y a pas de surprise. Bon, souvent les gens se réveillent quand les travaux commencent. Nous, ça fait quand même plusieurs années on est dessus, hein. Le front de port, ça nécessitait déjà de supprimer le poste de, communément appelé la baraque de la SOR, mais qui est pas de la SOR, qui est de la mairie, là, sur le port, qui était poste de relevage pour faire un bassin tampon enterré avec le poste de relevage enterré. Il a fallu refaire différents travaux de renforcement électrique, de conduite d'eau, j'en passais des meilleurs. Hein. On a vécu ces dernières années beaucoup d'hivers avec des travaux sur le port. Donc là, c'est un peu la phase finale qui se voit un peu plus. Donc voilà. Alors, pour revenir précisément sur la place Lapillée, on avait plusieurs constats. Un, cette place vit mal parce que...
Il n'y a pas assez de vie.
Ouais, on pouvait pas faire même une petite représentation, c'est compliqué parce qu'il y avait deux rangées de cinq arbres entrecoupées de lampadaires. Donc la place était remplie d'arbres et de lampadaires. Donc on avait dans l'idée d'en supprimer beaucoup parce que quand les arbres sont petits, c'est joli, quand ils sont grands, ils commencent à poser des problèmes. Donc on en laisse trois en front de port, à l'image un peu de ce qui se faisait par le passé sur cette place. En fait, on s'est retrouvé avec le revêtement de la place Lapillée a été beaucoup soulevé par les racines, etc. Enfin, le revêtement est mort, donc il fallait le refaire. Maintenant, tant qu'on est à refaire le front de port, il s'avère que devant le notaire, il y a un trottoir, donc avec un dénivelé. Et donc, ça nous a amené à re-réfléchir sur cette organisation de la place Lapillée. Et en fait, à l'époque où ça a été fait, il y a un banc là près du mur qui fait tout le long. Pourquoi il y a eu ce banc de fer avec cette cassure? C'était pour rabaisser le niveau juste avant le mur, pour pas que le mur soit trop haut. Parce que sinon, il aurait fallu que le mur soit un mètre plus haut. Donc c'était pas une mauvaise idée à l'époque. Hein. C'était maintenant pour redonner toute l'esplanade à la place, on a choisi de faire différemment. Alors d'une part avec une cale, une rampe qui va épauler la place, donc qui va partir du bas de la rue Jeanne d'Arc, qui va suivre un peu l'axe de l'escalier actuel, qui va contourner la place pour finir à peu près devant chez Koska, et avec au milieu de cette rampe un escalier d'accès direct à la place. Cette rampe, on met un garde-corps qui est le même que devant la mairie, si bien que quand vous allez être sur le port en face la rue Jeanne d'Arc, vous aurez d'un côté la cale de la mairie avec son garde-corps et l'escalier de la mairie, et de l'autre côté la cale de la place Lapillée avec le même garde-corps et l'escalier de la place Lapillée. Donc on aura une certaine homogénéité d'urbanisme d'ensemble, ce qui va rajouter du cachet. Pour pas remonter le mur de la place Lapillée, parce que c'est toujours le problème, nous on retire ce banc, on vient de même niveau que la place, et en fait on va se retrouver avec la place qui va être à peu près au niveau du mur. Donc en fait, sur ce mur, on va mettre le garde-corps, le même pour rester dans le même style, si bien que la place sera faite un peu dans l'esprit de la place des Bois Noirs, un peu à côté. Si bien que de la place des Bois Noirs jusqu'à la place La Pliée, on va avoir une certaine unité de traitement de l'ensemble. Et donc la place va être visuelle, va être beaucoup plus accessible, va être beaucoup plus conviviale.
À quoi elle va servir cette place, La Pliée ?
Est-ce qu'elle sert déjà aujourd'hui ? Déjà, c'est une place qui permet aux uns aux autres d'y aller,
de flâner,
de s'asseoir sur un banc, parce qu'il y aura des bancs quand même. Elle pourra aussi servir à quelques petites représentations, animations, ce qu'on pouvait pas faire aujourd'hui à cause des arbres. On va aussi avoir le terre-plein devant qui peut être utilisé, hein, pourrait imaginer des concerts là, et puis forcément sur le quai Martin, donc de faire des choses un peu différentes. Et en fait, s'il y a un concert, par exemple, ici, quelqu'un sur la place La Pilée peut assister au concert. Et en fait, on va vivre le port très différemment par rapport à aujourd'hui. Donc, ça bouleverse les habitudes, mais je crois que c'est pour un bien. Je pense que dans quelques temps, tout le monde sera satisfait de l'équipement.
Pour revenir à l'animation de la place, dès cette année, dès cet été...
Il y a déjà des choses de prévu.
Il y a déjà quelque chose de prévu, c'est-à-dire que une île des auteurs sera installée place de la Pilée. Il y a aussi un nouveau festival de la bande dessinée qui s'est créé, qui sera aussi place de la Pilée. Donc on aura, je pense, un endroit très chaleureux pour ce genre de manifestation. Et bien sûr, dans les années à venir, je suppose qu'il y a d'autres manifestations ou spectacles qui pourront se passer sur cet endroit.
Cette place sera accessible.
Oui, par la rampe, bien sûr. Et il y a les WC aussi qu'on va rendre accessibles handicapés. Alors après, juste un mot sur des aménagements de détail, mais ça a son importance. À partir du moment où on disait, on fait une esplanade là devant la place La Pilée, quel type de revêtement on fait ? Alors, on voulait pas mettre du macadam, mettre du béton désactivé, c'était peut-être, vous savez, c'est ce béton avec du gros grain qui est un peu actuellement sur le port. Finalement, on finit par ressembler à des stations de bord de mer type Saint-Brévin. Je suis pas sûr que ce soit l'image de l'île qu'on veut développer. Donc on est parti sur du pavé avec deux types de pavés, des pavés granit et des pavés porphyrin. Alors des pavés granit qui font 15-15 et du porphyrin qui fait 10-10. Donc pour casser un peu le rythme, qu'on n'ait pas tout dans une même longueur, quoi. Et après on va avoir aussi des arbres sur le port, alors des petits arbres qui sont du tamarin, et puis tout le monde a vu des espèces de gros bacs qui sont faits en pierre là maçonnée, et donc qui vont souligner les traversées de piétons. Et là, on s'est longtemps posé la question de quel arbre on allait mettre. Finalement, on a jeté notre dévolu sur du chêne liège. Pourquoi le chêne liège? Parce que il y en a pas forcément à l'Illieu, ou assez peu. C'est un arbre qui est pas beaucoup utilisé en ornement, donc j'ai envie de dire on fait pas comme tout le monde. C'est un arbre qui est rustique, qui supporte bien le bord de mer, et surtout son écorce a beaucoup servi aux maritimes, donc on faisait les bolinches, etc. avec le chêne liège, et finalement c'est un clin d'œil donné aux maritimes sur le front de port de l'Île-Dieu, donc on trouvait que ça avait du sens.
Autre gros travaux de prévu, c'est les équipements publics du Petit Chiron, future médiathèque. Ce projet est-il toujours d'actualité, Sylvie ou Bruno ?
Plus que jamais, il est d'actualité.
Plus que jamais.
J'aime pas trop quand on dit l'équipement du Petit Chiron, la médiathèque, parce qu'il y a beaucoup de choses dans cet équipement. Donc il y a un équipement culturel qui se trouvera en face du cinéma, donc ça fait déjà un ensemble.
La médiathèque, donc ?
La médiathèque, la salle d'exposition, le service patrimoine, les archives municipales.
Et l'espace régional numérique.
Et l'espace régional numérique.
Et les trains de bottes.
un petit peu plus loin, il y aura donc la structure pour les enfants, les trainbottes. Donc, c'est pas une médiathèque simplement.
C'est pour ça que je dis équipement public
voilà,
de petits chiens.
C'est bien. Ouais, ouais, il faut dire ça et il faut voir tout ce qu'il y a dedans. Parce que il y a des projets qu'on n'a pas pu réaliser. Par exemple, le projet de la salle d'exposition et du service patrimoine qu'on voulait organiser à l'ancienne poste. Et puis, les bâtiments étaient vraiment trop vétustes et on n'a pas continué le projet qui nous menait quand même à des sommes importantes. Donc, on a profité, depuis très longtemps, on veut faire une bibliothèque, médiathèque sur l'île. Donc, on a profité de ce nouveau projet pour tout inclure dedans.
Le numérique, le patrimoine, la médiathèque et le cinéma.
On avait un gros problème pour les archives municipales qu'on promène de temps en temps. Et promener des archives, c'est pas spécialement le meilleur. Donc, on aura des archives qui seront dans un endroit protégé et voilà, qui sera stable et
qu'on pourra beaucoup plus mettre à disposition du public que celle-là aujourd'hui. Voilà.
En vous écoutant parler, Sylvie, c'est un ensemble culturel.
C'est un ensemble culturel.
Oui.
Et pour la jeunesse. Et de loisirs pour la jeunesse un peu plus bas.
Jeunesse, tout public.
Oui,
tout
public. Ah non, là, c'est un ensemble culturel tout public, pas seulement pour la jeunesse. Non, non, quand je dis jeunesse, c'est un peu plus bas les trainbottes. Mais bien sûr, et la médiathèque, faut bien penser, c'est pas une bibliothèque. Une médiathèque, c'est ce qu'on appelle maintenant le troisième lieu. C'est un lieu où on se rencontre, c'est un lieu où c'est pas la bibliothèque où on lit, où il n'y a pas de bruit, où il y a il y a des jeux pour les enfants, il y a les ordinateurs, c'est un lieu de vie, un lieu où les gens peuvent venir lire le journal, où on peut se rencontrer, enfin voilà.
C'est un lieu intergénérationnel.
C'est intergénérationnel. Et il est à l'endroit où il est placé, il est près des chênes verts. Donc, pour faciliter aussi aux personnes âgées de venir et les trainbottes à côté, voilà.
Ça fait longtemps que cette idée traîne de mutualiser cet espace du petit chien.
Non, mais en fait, nous, on s'était engagé de faire une médiathèque digne de ce nom lors des municipales de 2014, parce que l'île-Dieu manque un peu cruellement de cet équipement. On a beaucoup de scolaires ou d'étudiants qui sont inscrits dans les médiathèques continentales parce qu'il n'y avait pas d'équipement sur l'île. Il y a aussi énormément de jeunes qui lisent beaucoup. S'il faut acheter tous les livres, ça a un coût. Et donc, il y avait besoin de cet équipement et puis de pouvoir être en réseau avec les bibliothèques de Vendée, pouvoir avoir accès à un certain nombre d'ouvrages, etc.
Donc, c'est déjà le cas à l'école du Penant.
Ce partenariat avec la Vendée.
C'est
déjà le cas, oui. On a commencé par faire cette bibliothèque à Penant, qui est un peu à l'étroit, on ne peut pas mettre tous les ouvrages qu'on aimerait. Donc de toute façon, il y avait ce projet qu'on voulait faire. Et puis il y avait certains services qui étaient mal logé, on va dire, comme le service patrimoine. On voulait réhabiliter ces salles, comme l'a expliqué Sylvie. On a les trainbottes, l'appareil, refaire la toiture, refaire les ouvertures, refaire l'électricité. Donc, du coup, tu refais le carrelage aussi, tu fais, etc. Et donc, on se retrouve avec un projet sur les trainbottes qui était 700, 800 000 euros au bas mot. Même chose pour les salles d'expo. Et pour autant, à l'arrivée, on n'avait rien de cohérent. Et donc, en fait, on a réfléchi à faire à mettre cette médiathèque pour qu'elle soit le plus cohérent possible. C'est-à-dire proche du port, qu'elle puisse aussi avoir une liaison avec l'arrière-port, ça c'était important, qu'elle soit...
Une liaison avec le cinéma.
Oui, une liaison avec le cinéma, elle n'était pas forcément... Enfin, ça n'a pas été un critère. Une médiathèque, soit on la positionne globalement en centre-ville, soit on la met proche des écoles. On a étudié cette question de la mettre proche des écoles. C'était complexe pour d'autres motifs, parce que se retrouver derrière les salles de sport, c'était l'accès par la rue du Guétrouin, bref, c'était compliqué en termes de stationnement ou autre. Et puis on trouvait dommage de pas, voilà, que ça serve pas l'économie en général. Et finalement, en discutant de différents lieux, ça finit par s'imposer à nous. Ah, c'est ça. Et puis là, on est.
Ça s'est imposé à vous à quelle date?
Je sais pas. Il y a peut-être 3 ans maintenant. On est proche de l'EHPAD des Chênes Verts. Or, le service patrimoine fait beaucoup d'ateliers mémoire. Donc,
travaille beaucoup avec le Chêne Vert.
Ouais. Donc, ça permet d'avoir le patrimoine pas très loin de Chêne Vert, ça permet d'avoir cette liaison aussi avec le cinéma, hein, parce que il y a aussi des outils numériques en lien avec la médiathèque, et puis ça permettait de réhabiliter les trainbots, et tout ça pour à l'arrivée un coût net commune qui soit acceptable. Donc c'est
genre... Qu'est-ce que vous appelez acceptable?
Bah, c'est à peu près un million et demi pour la commune sur les 3 millions de projets, quoi. Donc là aussi, ça nécessite de l'ingénierie financière, hein. Faut aller chercher l'argent, c'est beaucoup.
Ça coûte 1,3 million à la commune, alors que le projet coûte 3 millions.
C'est à peu près ça. Ouais.
C'est ce que vous venez de nous dire.
Ouais, c'est à peu près ça. C'est un peu plus de 3 millions, et coût net commune, c'est peut-être 1,3 million, 1,4 million, 1,5 million.
Le département, la région, met la main à la poche, quoi.
Ouais, en fait, on a la DRAC sur la partie médiathèque, hein, qui va donner un peu plus d'un million d'euros. En fait, la partie médiathèque, c'est la partie la plus subventionnée, ouais, par la DRAC.
Je voudrais dire un mot là-dessus, excuse-moi de te couper, mais actuellement, vous savez bien que les subventions diminuent énormément, c'est très difficile à trouver, et la DRAC, il y a pratiquement presque plus de subventionnement, sauf depuis quelques années encore, pour la lecture publique. Donc, il faut profiter de ce moment-là pour faire une bibliothèque ou une médiathèque. Et actuellement, on le voit par le développement justement des médiathèques, les communes et les communautés de communes installent des médiathèques parce que c'est encore très bien subventionné par la DRAC.
Médiathèque sur l'Île-Dieu, on va retrouver livres, DVD. Comme une médiathèque continentale.
Oui,
c'est le même principe.
C'est le même principe. Voilà. Alors après, en termes de subventionnement, donc il y a le département via le contrat Vendée Territoires. Il y a la région via le contrat territorial régional. Il y a un peu de hors contrat région, et puis l'État via de la DETR, mais là plutôt sur la partie Trainbot, qui elle, curieusement, est assez mal subventionnée.
L'enfance est mal subventionnée.
Ouais.
Comment vous l'expliquez?
Les CAF sont pas riches, je suppose. Non, mais les choses sont faites ainsi. Et maintenant, c'est sûr que les trainbots dans l'ancienne école du Tichiron, on arrivait quand même au bout d'un système, j'expliquais tout à l'heure, où de toute façon, il aurait fallu refaire la toiture, refaire tout un tas d'équipements. Ça a coûté 700 ou 800 000 euros. Pour un bâtiment qui était de toute façon pas tout à fait approprié aux besoins. Donc nous, je suis responsable de l'argent public, de l'optimiser au mieux. J'ai envie de dire restructurer les trainbots et faire restructurer les salles de l'ancienne poste. Bah, avec cet argent-là, finalement, on arrive à faire un équipement complet. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que c'est un coût qui est supportable par la commune, parce que on arrive à optimiser, à faire quelque chose de très cohérent. Hein. Encore une fois, les archives, pouvoir les consulter, mettre à disposition du public, on peut le faire que dans un espace médiathèque. D'avoir le service patrimoine à côté, il consulte aussi très souvent les archives. On a aussi des ateliers archéologiques. On a, voilà. Et de positionner aussi les enfants, la tranche 9-12 où on est à l'apprentissage de la lecture, on commence à lire, etc., et d'avoir cet outil de lecture à côté, je pense que c'est une vraie chance pour les lieux.
Oui, moi, je voudrais dire, parce qu'on entend des fois des gens dire « Oh, une médiathèque sur l'île, c'était pas la peine. » Et en fin de compte, on a ouvert donc notre petite bibliothèque du Ponant. On a démarré, évidemment, on avait une centaine d'adhérents. Aujourd'hui, on a quand même 875 abonnés. Donc, bien sûr, tout âge confondu. Hein. Mais ce qui prouve quand même qu'il y a un besoin. Partout où il y a eu déjà des bibliothèques et où les communes ont fait des médiathèques, on a vu le nombre d'adhérents multiplié des fois par 5. Donc on sait que c'est un lieu qui sera fréquenté et il y a un réel besoin.
Oui, et puis chercher à en Vendée une commune de 5000 habitants qui n'est pas de médiathèque. Enfin, c'est un outil public, de service public qui est dans l'ordre des choses. Alors peut-être que le mot est pompeux, peut-être que le mot fait peur. Maintenant, des enfants qui lisent beaucoup, dont les parents ont peu de moyens, ils peuvent pas lire parce que voilà. Certains diront « Ah ouais, mais moi, les livres, je les achète. » Ouais, très bien, et il faut aussi, c'est pas la question. Mais moi, je connais des enfants qui vont lire beaucoup. Et du fait que des parents aient peu de moyens, ben, on empêcherait l'enfant de lire. Je trouve ça terrible. Et donc, ça, c'est un vrai outil pédagogique, un outil ludique, parce que c'est aussi notre patrimoine. Voilà, il y a une certaine cohérence d'ensemble à avoir fait cet équipement là où il est situé, avec les différentes composantes qu'il a, et pour, encore une fois, une somme qui ne mettra pas les finances de la commune par terre.
Le stationnement, il n'y a pas de stationnement, petit chion.
C'était un des problèmes, mais à partir du moment où on fait un équipement plutôt en cœur de ville, c'est compliqué. Donc le stationnement, c'est la place de l'église, aujourd'hui... Il va être réhabilité, alors on doit réaliser l'étude, parce que là aussi... c'est important, il ne faut pas faire n'importe quoi, et puis il faut rationaliser au maximum, enfin chaque mètre carré compte, et puis quand je dis l'étude, il faut faire des relevés topographiques, il faut borner le terrain, il faut quelqu'un qui dessine, après si on veut mettre un revêtement dessus, il faut faire le dossier de consultation des entreprises, etc. etc. Enfin, c'est pas de l'étude foutue en l'air. Hein. Il faut faire cette étude. Et là encore, on est sur... stationnement, je disais tout à l'heure, c'est pas tant le nombre de places qui est importante, mais la façon dont on les gère. Aujourd'hui, c'est un peu open bar sur ce parking-là. Demain, peut-être qu'on mettra une zone bleue. Voilà, il faudra peut-être le faire différemment.
Les gens restent souvent longtemps à lire.
Ils viennent surtout échanger des bouquins, mais ils peuvent rester aussi. Mais ça n'empêche pas de faire une zone bleue. On verra la durée qu'il faut mettre. Aujourd'hui, le parking, il est plein. On sait bien qu'il y a des véhicules qui restent plusieurs jours, et ça, c'est pas tout à fait normal. Donc, de retrouver une gestion cohérente de ce parking. Après, il y a quelques années, il y avait encore une école à cet endroit-là, et ça fonctionnait. Maintenant, on a aussi amélioré côté de l'EHPAD des Chênes Verts. Bon, c'est des projets qui avanceront dans le temps.
Début des travaux, rapidement.
Le début des travaux, ça sera octobre 2019, parce que pour commencer les travaux, il faut d'abord raser, il faut démolir. Donc tout ça va ensemble. La démolition commencerait à peu près au mois d'octobre, octobre-novembre 2019. Et puis, une suite des travaux, le gros œuvre jusqu'au mois de juillet, parce que l'idéal, ce serait de ne pas travailler en gros œuvre pendant l'été, donc de travailler à l'intérieur pendant l'été. Alors, si tout va bien, jusqu'à juillet, le gros œuvre, à l'intérieur après, et une réalisation finale, toujours pareil, si tout va bien, au printemps 2021.
2021, l'ouverture. Oui. De ce centre culturel.
Oui, c'est l'idéal, c'est le calendrier qui est fait. Et
c'est les pronostics.
Voilà.
On n'a pas eu le temps de parler de la mairie de Lille-Dieu, les nouveautés, la rénovation. On en parlera dans une prochaine émission.
Oh, on peut en dire deux mots peut-être.
On n'a plus le temps. Désolé.
Même pas 30 secondes.
Même pas 30 secondes. Ah, 30 secondes.
Ouais, 30 secondes.
Allez-y,
donc, assez vite. Non, je sens l'inquiétude poindre. Pourquoi les travaux commencent pas? Bah, écoutez, on est en appel d'offres. On n'avait pas des réponses à tous les lots, donc là, ça va pouvoir se faire et les travaux vont pouvoir démarrer, que personne ne s'inquiète de ça.
On aura le temps d'en reparler sur cette antenne.
Tout à fait.
Merci Sylvie Groc, à très bientôt.
À bientôt Roland.
On rappelle, vous êtes la première adjointe en charge de la culture à la mairie de l'Île-Dieu. Bruno Nouret, merci beaucoup.
Merci.
On rappelle, vous êtes le maire de l'Île-Dieu, à très bientôt.
Oui, à bientôt, au revoir.